Bonjour à tous et bienvenue donc sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? En direct, tous les jours cette semaine, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés par Laurence Millet, avec Virginie Cassaigne à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Julien Tricard, Géraldine Mosna-Savoie et bien sûr Adèle Van Rett. Adèle qui recevra Claudine Cohen à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins pour y parler de la méthode de Zadig. Suite et juste milieu pour nous, ce mercredi d'une semaine sur l'improvisation dans les Nouveaux Chemins, une semaine qui est aussi l'occasion pour l'équipe des Chemins de réfléchir sur sa propre pratique et l'animation quotidienne d'une émission qui repose sur la liberté que donne paradoxalement le travail en amont. Après Clément Cannon et Frédéric Worms, avant Nicolas Offenstadt, l'historien Nicolas Offenstadt et Carole Desbarra, que je ne vous présente plus, c'est aujourd'hui le philosophe Christian Béthune, en duplex de Clermont-Ferrand, qui nous parle de jazz. Christian Béthune, à qui l'on doit notamment un excellent livre sur le jazz et l'Occident, paru chez Klingsic. Et Carole Beffa, bien sûr, notre pianiste de la semaine, pour vous, chers auditeurs, en studio et en direct avec nous tous les jours, qui improvise au hasard des conversations, au doigt de qui nous allons tout de suite donner la parole en lui demandant d'improviser à partir de l'idée de différence. Comment sonne la différence, Carole Beffa ? Bonjour Christian Béthune.
Bonjour.
Vous êtes avec nous, donc, enfin avec nous en un sens, en duplex de Clermont-Ferrand. On vient d'entendre Carole Beffa qui va nous accompagner comme toute la semaine, tout le long de cette émission sur le jazz. Jazz qui, si j'en crois ce qu'il m'a dit, mais je me méfie de ce qu'il raconte à cet égard, n'est pas sa spécialité. Nous verrons cela. La position de l'improvisateur est une position risquée, hein, puisque à double titre peut-être. D'abord, l'improvisateur doit faire coïncider les attentes d'un public, aussi vaste qu'imaginaire quand on est à la radio, avec l'expression de son propre état. Et puis aussi, il doit quand même rompre le silence infini, hein, si ténu soit-il, qui sépare une suggestion de son interprétation, Christian Béthune, sur le risque de l'improvisation de l'improvisateur.
Alors, on parle beaucoup de ça parce qu'on pense qu'il n'y a pas de repentir, mais précisément, je pense aussi que l'improvisation est un moment où on pardonne l'erreur. Dizzy Gillespie avait cette phrase magnifique, il disait « Quand tu fais une faute, fais-la le plus fort possible, comme ça tout le monde croira que tu l'as fait exprès. » Et il y a une autre phrase de Tatum qui dit « Mais dis-toi bien qu'une fausse note, ça n'existe pas. » Tu fais n'importe quelle note, il suffit que tu trouves ce que tu auras à dire après, et ça ira dans n'importe quel accord. Et donc, il y a, c'est vrai, une tension, une inquiétude, un stress dans l'improvisation, mais il y a aussi cette notion que d'une certaine manière, la faute n'est pas rédhibitoire, elle est toujours rattrapable, alors que quelqu'un qui a composé, qui a revu, qui a soigné, qui a relu et qui laisse des fautes, là, il devient impardonnable.
Et de sorte qu'il faut distinguer hein, clairement la composition et l'exécution. Mais est-ce que, Christian Béthune, de ce point de vue, faute avouée ou non avouée, qui est donc pardonnée parce qu'on ne l'avoue pas et parce qu'on l'affirme au lieu de l'avouer, est-ce qu'on n'est pas là dans l'illusion rétrospective de celui qui se dit « Ah non, 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 en fait, il l'a fait exprès, donc ça ne sonne pas faux ». Et au fond, est-ce que ce point de vue-là n'est pas étranger à l'improvisation et à la valeur de, pardon d'employer un mot barbare, mais de contemporanéité, c'est-à-dire au fait que quand on écoute quelqu'un qui improvise, on est contemporain d'une musique, plus qu'on ne la juge après coup.
Je crois d'abord que dans l'improvisation, et ça va bien avec l'idée de musique, on est d'abord dans le jeu. Et d'une certaine manière, dans un jeu, les erreurs sont intégrées et font partie de la partie, si je puis dire. Et donc, quitte à ce que les autres en profitent. Mais donc, d'une certaine manière aussi, le risque fait partie du jeu et est joué comme tel. Donc là encore, c'est pas comme un exécutant qui fait une fausse note, parce que là, il trahit une idée préalable, il perturbe l'ordre d'une partition établie, il déjoue une essence, si je puis dire. Alors que comme il n'y a pas d'essence préétablie, d'une certaine manière, et que l'essence, c'est le processus du jeu lui-même, là encore, cette peur de la faute est moins stressante.
Voilà,
peut-être ce qui est le plus stressant, c'est d'être à sec d'idées, peut-être.
Alors, de ce point de vue, s'il n'y a pas d'essence préétablie, comme vous le dites, on est au cœur et du problème, et peut-être d'ailleurs de sa solution ou de sa résolution dans une pratique effective, Christian Béthune. Dans l'improvisation, la composition et l'exécution ne sont plus séparables. En général, on se représente l'interprétation d'un morceau comme venant après sa composition, venant après le processus de créateur et l'interprétation s'appliquant ou donnant le jour ou donnant aux oreilles à entendre, donnant à entendre aux oreilles un processus créateur qui le précède. Dans l'improvisation, nous sommes de plein pied, ce qui pose des problèmes insolubles en termes de réflexif, mais qui en même temps leur apporte la solution dans l'évidence d'un morceau ou d'une interprétation.
Oui. En fait, je pense qu'il n'y a pratiquement qu'en musique, et peut-être éventuellement en stratégie militaire, et singulièrement, presque uniquement dans le cadre de la musique sérieuse occidentale, que l'improvisation semble réellement poser problème. Dans la vie courante, nos actions entremêlent librement planification et improvisation. Toute conversation, c'est bien une forme d'improvisation, c'est même une improvisation absolue. Donc c'est par nature une pratique improvisée.
Est-ce que cette différence qu'on opère traditionnellement entre la composition et l'exécution n'est pas en un sens ethnocentrée? Je le dis à dessein, Christian Béthune, parce que votre propos est aussi de faire la critique d'une lecture strictement occidentale du jazz, en l'occurrence, dont vous parlez fort bien. Et vous expliquez, et vous partez, et c'était d'ailleurs tout le sens de cette première requête à Carole Beffa, vous parlez de cette différence qui existe entre la culture afro-américaine et une culture occidentale stricto sensu, qui par exemple, alors une différence qui apparaît par exemple dans le fait que qui récuse chez les Afro-Américains la séparation occidentale entre la beauté et l'utilité, ou bien la composition et l'exécution, Christian Béthune.
Oui, je pense que effectivement, ce rejet de l'improvisation dans le négatif, comme il a été très bien montré hier, est lié à une pratique ou une conception complètement ethnocentrée. Je me rappelle d'un colloque sur l'improvisation qui s'appelait l'improvisation ordre et désordre, dont les actes sont parus maintenant.
Un thème bergsonien, pour le coup, ordre
voilà.
Et désordre.
Et le compositeur Bob Ostertag disait ceci: « Si tu vas voir des pygmées en Afrique, ou des Inuits, et si tu leur demandes quelle partie de leur musique est composée et quelle partie est improvisée, c'est comme si tu demandais combien de donuts, c'est-à-dire ces espèces de beignets américains avec un trou au milieu, là, donc combien de donuts ont été utilisés pour construire ce micro. Voilà. L'improvisation a surgi comme problème justement parce qu'elle mettait en question quelque chose de sacro-saint qui s'est péniblement élaboré en Occident, c'est la notion d'œuvre d'art. Et effectivement, l'improvisation tend à substituer la performance à l'œuvre. Et on comprend qu'il y ait des réticences à admettre ce, je dirais même pas ce dépassement de l'œuvre d'art, mais cette ignorance, d'une certaine manière, de ce qui constitue la stratégie de constitution des œuvres.
Alors, on est d'accord sur le fait que l'improvisation, encore une fois, être contemporain de ce qu'on entend ou de ce qu'on joue, implique qu'on assiste à un dépassement par le geste lui-même de l'œuvre à laquelle ce geste donne le jour. Mais enfin, quand même, Christian Béthune, il y a bien une œuvre au terme de ça. D'ailleurs, Carole Beffa a fait des CD, qui sont des CD d'improvisation. Il y a bien une œuvre au-delà de la performance elle-même, ou en tout cas la performance, peut-être est-ce d'un point de vue bergsonien, le moment où l'élan vital se fige dans la matière et retombe dans la mort. Néanmoins, il y a bien un résultat, un effet de ce jaillissement improvisateur. Quelle place fait-on à l'œuvre quand on accorde, au nom de la pleine positivité de l'improvisation, tant de place à la performance, au geste, à l'exécution elle-même?
Ça peut paraître inquiétant pour un tenant de l'esthétique occidentale, mais d'une certaine manière, l'œuvre, c'est l'accident. Si, au moment voulu, il se trouve qu'il y avait un micro ouvert, un matériel d'enregistrement tout ce qui s'ensuit, et si les circuits de distribution ont vraiment permis que ce qui a été enregistré soit édité et diffusé, il y a œuvre. Bon, mais d'une certaine manière, c'est toujours la performance qui est première et l'œuvre finalement est un accident du jazz. Et d'une certaine manière, nous n'aurions pas eu d'œuvre de jazz si les fameux moyens techniques de reproduction chers à Walter Benjamin n'avaient pas été mis sur pied. Alors, je ne sais pas si le jazz eût existé tout autant, parce que précisément, le jazz... Il parasite la notion d'œuvre, plus effectivement, dans cette dimension-là. Mais enfin, je pense que l'œuvre est accidentelle. Le corpus du jazz est constitué de milliers de performances auxquelles nous n'avons jamais assisté, auxquelles nous ne pourrons jamais assister, ou peut-être de performances que nous retrouverons dans les cartons ou dans les tiroirs d'une compagnie de disques qui a jugé bon de ne pas les publier ou qu'ils avaient perdu ou que sais-je encore.
On va retrouver l'accident, l'œuvre et la performance à la fois en entendant un texte extrait du bon livre de Christian Gailly, Un soir au club. On va entendre un texte plus exactement de Jean-Pierre Martin. Bon livre aussi d'ailleurs, hein, dans lequel... Jean-Pierre Martin parle de Louis Armstrong et l'invention qu'on lui attribue en 1926 du scat singing et puis évidemment Heebie-Jeebies, le morceau qui est en jeu à tous égards ici. Écoutez.
Une légende attribue à Louis Armstrong l'invention en 1926 du scat singing. Armstrong est en train d'enregistrer Heebie-Jeebies. Après un premier chorus, la feuille où sont notées les paroles lui aurait échappé. Ce qui lui vient alors sur le bout de la langue, c'est le non-mot, le non-signe, la voix pure. Et sans se démonter, il improvise son deuxième chorus en onomatopée. La deuxième syllabe de ce chorus est précisément « scat ». Ce n'est qu'une légende. Louis Armstrong a prémédité cette improvisation. Et son scat a des antécédents nombreux. Langages musicaux de l'Afrique, musique populaire, tradition occidentale des vocalises dans le chant sacré. Mais gardons la légende. Elle nous raconte une histoire sur les aventures modernes de la voix. Le scat, manière de chanter où les paroles sont remplacées par une suite d'onomatopées ou de syllabes sans signification, où la voix peut imiter les instruments, est en somme une façon de mettre le chant hors du sens, la voix hors du cygne. Un an après l'invention du scat, en 1927, Duke Ellington, faisant chanter Adelaide Hall, utilise la voix humaine comme un instrument. Avec le scat, quintessence de l'art vocal du jazz, comme avec le parler en langue de la glossolalie, la voix dissocie le sens et la parole. Le scat dit d'une certaine façon, il n'y a pas de langue qui tienne. Toutes les paroles sont équivalentes. Il faut être étranger dans sa propre langue. La musique transcende la langue. Le scat est un rire impur. Ce qu'il affirme par son rire, c'est la défaillance du texte, l'insuffisance des mots, et au contraire, la jubilation de la voix.
Louis Armstrong, Christian Béthune et Carole Beffa sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mercredi dans une semaine sur l'improvisation. C'est du jazz évidemment que nous parlons aujourd'hui. Carole Beffa nous a provisoirement rejoint autour de la table, a déserté son piano provisoirement pour discuter un tout petit peu avec nous, comme c'est l'usage. Carole, sur cette question de l'œuvre, l'œuvre comme un accident de l'improvisation, comme presque un dommage ou une vertu collatérale de l'improvisation, qu'est-ce que votre expérience d'improvisateur vous dit à cet égard ?
Effectivement, quand on voudrait enseigner l'improvisation, probablement aussi difficile à enseigner que la composition, on ne sait pas trop quel truc enseigner, quel truc dire, parce qu'on ne veut pas justement que l'improvisation se résume à une somme de trucs, mais qu'elle soit un peu plus que cela. Il y a une chose, en revanche, sur laquelle on aime insister, et je pense qu'on a raison, c'est, et ça me fait penser à ce que disait Christian Béthune juste avant, effectivement, tout accident doit être intégré dans l'œuvre pour donner l'impression qu'il n'était en réalité pas un accident, pas selon simplement une illusion introspective qui considérait avoir après coup un accident comme étant quelque chose qui préexistait à l'œuvre.
Ou mais... un élément du meilleur des mondes possible au fond. Hein.
Exactement, mais ça serait une façon de réagir à ce que l'on vient de faire. En quoi l'improvisation est une activité finalement assez oulipienne, où la contrainte permet l'expression. Je veux dire par là qu'il y a d'abord cette contrainte oulipienne au sens de l'Oulipo, l'ouvreur de littérature potentielle, qui consisterait à partir d'un thème donné, ce que vous me donnez tous les matins, ou bien, évidemment, pour le jazzman, une grille harmonique, donc un ensemble d'accords. La façon de réagir, en soi, la contrainte est source d'expression et le carcan permet à la liberté de se déployer. Mais il y a aussi cette chose qui est que tout ce qui est, entre guillemets, fausse note, et je fais référence à cette très belle phrase de Dart Tatum qui avait cité en début d'émission Christian Béthune, où la fausse note se révèle véritable note, en fait, appartient au reste parce que l'improvisateur a su réagir et faire en sorte qu'elle s'intègre à autre chose. Ou bien parce que l'improvisateur avec lequel il joue, s'il est en improvisation collective, a pu lui aussi réagir d'une certaine façon. Ces interactions permanentes qui font que ce qui pouvait passer pour accident et pur accident, en réalité, s'intègre dans une finalité propre.
Le fait même, Christian Béthune, qu'on puisse parler de fausses notes en matière d'improvisation renseigne sur le fait que l'improvisation n'est pas ex nihilo. Alors certes, il n'y a pas de composition par rapport à laquelle il y aurait comme autant de cases à cocher, des notes à accomplir, mais enfin, on peut quand même parler de fausses notes, c'est donc qu'il y a bien des contraintes, des harmoniques, des lois, des règles implicites, Christian Béthune.
On en parle parce que, d'une certaine manière, le jazz a toujours été défini par rapport aux critères de la musique occidentale, la musique sérieuse, parce que le jazz se sert des outils de la musique occidentale, il se sert de partitions, hein, comme... Mais c'est peut-être pour ça qu'on parle de fausses notes. Je ne suis pas sûr que, au début de la Nouvelle-Orléans ou dans les ring shouts des esclaves, la notion même de fausses notes
est un sens.
Et put avoir un sens à l'époque. Ce qui avait un sens, c'est ça serait plutôt l'intervention dans le bon tempo ou à contre-temps ou à mauvais escient, un petit peu comme une blague peut tomber à plat ou comme une remarque qu'on dit déplacée. Je crois qu'il y a plutôt dans l'improvisation, il y a plutôt le problème de la note déplacée ou de la phrase déplacée que de la fausse note.
Est-ce que vous diriez à cet égard, Christian Béthune, que l'improvisation, et en particulier en jazz, qu'on associe bien souvent d'ailleurs, et c'est probablement un préjugé occidental aussi, qu'on associe bien souvent au rire, un rire que l'homme blanc se représente bien souvent sous la forme hilare du bon nègre tel qu'il l'imagine, riant à gorge déployée, une caricature que vous présentez vous-même d'ailleurs en couverture de votre livre, sur le jazz et l'Occident. Néanmoins, est-ce qu'on peut parler de l'improvisation comme on parlerait de l'humour, où il s'agirait au fond d'être pertinent, d'être juste, sans qu'on puisse pourtant dire avant à quel moment, quel est le kairos, le moment le plus opportun pour dire une blague qui, si elle avait été dite 10 secondes plus tôt ou 1 minute plus tard, tomberait à plat.
Je suis d'accord avec vous sur la notion d'humour si on accepte le fait que humour vient de humeur, hein, et que la notion de mood, qui veut dire humeur, est fondamentale en jazz. Donc effectivement, par cet ensemble de détours étymologiques, il y a un rapport flagrant entre l'improvisation jazzistique et l'humour. D'autre part aussi, il y a, alors ça c'est au fondement même de la culture afro-américaine, cette fameuse double consciousness que avait mis en évidence dès 1903 Du Bois, et qui fait qu'on est toujours autre chose que ce qu'on est en même temps, et qu'on est obligé d'assumer cette duplicité et de la vivre. Et donc, vivre cette double conscience, c'est-à-dire se considérer soi-même avec les yeux par lesquels vous pouvez vous-même être considéré. En gros, le noir se considère en lui-même et à la fois se considère comme peut le considérer l'homme blanc. Et de cette double, cette double conscience, donc, naît forcément une difficulté qui ne peut se résoudre que par l'humour.
Et vous-même tranchez dans cette difficulté. Vous dites ceci: l'esclave afro-américain ne renvoie pas à une humanité niée, mais simplement à une humanité diaphane, au point de ne pas même pouvoir retenir la négation. Une humanité absente, dans la mesure où celle-ci n'a jamais été en mesure d'apparaître. C'est précisément de cette absence que le jazz tire son origine. N'ayant rien à nier, il leur restait tout à affirmer. C'est pourquoi, osons le dire, le jazz s'impose à nos oreilles comme une musique entièrement positive, une expression sans trace de négativité. À chaque note jouée, le musicien pose son humanité tout entière pour la première fois. Et ce qui est très intéressant, extrêmement intéressant dans ce texte, Christian Béthune, ce texte de vous, c'est que vous articulez une dépersonnalisation, une désubjectivisation. Le sujet s'estompe derrière sa musique, de la même façon que l'œuvre s'estompe derrière la performance. Et dans le même temps, vous l'articulez à une pleine positivité du rapport à la musique. Au fond, le jazz, c'est en Occident qu'on le voit comme la réplique de l'esclave à son bourreau. Mais en réalité, le jazz est d'abord pleine positivité, musique de plein pied.
Ah oui, tout à fait. C'est une musique de plein pied. Ça me rappelle une remarque de Dizzy Gillespie à propos de Louis Armstrong. Et Dizzy Gillespie dit: au début de ma carrière, j'étais agacé par les singeries de Louis Armstrong, son rire, etc. Ça m'énervait. Et puis après, je me suis aperçu que aucun malheur du monde ne pouvait empêcher Armstrong de rire. Et à ce moment-là, j'ai compris le rêve d'Armstrong et je l'ai assumé à mon tour. Et je crois que ce rire d'Armstrong, c'était pas une pitrerie, c'était vraiment une manifestation pleine et entière de sa positivité.
Alors, et c'est en cela qu'on peut se servir de Bergson. La joie intérieure, dit Bergson, n'est pas plus que la passion un fait psychologique isolé, qui occuperait d'abord un coin de l'âme et gagnerait peu à peu de la place. À son plus bas degré, elle ressemble assez à une orientation de nos états de conscience dans le sens de l'avenir. Puis, comme si cette attraction diminuait leur pesanteur, nos idées et nos sensations se succèdent avec plus de rapidité, nos mouvements ne nous coûtent plus le même effort. Enfin, dans la joie extrême, nos perceptions et nos souvenirs acquièrent une indéfinissable qualité comparable à une chaleur ou à une lumière, et si nouvelle qu'à certains moments, en faisant retour sur nous-mêmes, nous éprouvons comme un étonnement d'être. Je serais curieux de savoir ce que Carole Beffa pense de l'étonnement d'être, Carole. Et voilà pour l'étonnement d'être, version Carole Beffa et Christian Béthune, qui est avec nous en duplex de Clermont-Ferrand pour nous parler d'improvisation et de jazz en particulier aujourd'hui. Dans ces catégories que l'Occident, à vos yeux, sépare indûment, il y a la différence entre le bruit et le son. On a un tout petit peu envisagé tout à l'heure, il faut revenir dessus maintenant. La différence entre le bruit et le son, l'opposition hein, plus clairement entre le bruit et le son, est constitutive, dites-vous, de la musique occidentale. Alors que lorsqu'un musicien de jazz, et je vous cite, élabore sa matière sonore, il ne se pose pas la question de savoir s'il produit un son ou un bruit, et n'éprouve pas le besoin de justifier théoriquement son usage. Le musicien de jazz s'efforce tout simplement de rendre son propos explicitement musical, et il espère qu'en retour, son public le percevra comme tel. De sorte que, Christian Béthune, dans l'ordre des frontières que le jazz contribue à abolir, il y a également la frontière donc, du bruit et du son, c'est-à-dire du sens et de la mélodie.
Oui, tout à fait. Le bruit. Alors, ce qu'il y a, c'est que la musique occidentale, notamment au moment des futuristes, s'est intéressée au bruit. Mais tout de suite, il a fallu qu'elle le théorise et qu'elle le fasse finalement comme si le bruit, c'était du son. Encore une fois, cette théorisation...
Du son, c'est-à-dire du bruit avec du sens.
Voilà, cette théorisation des futuristes est totalement plongée dans cette dichotomie du son et du bruit. Alors que précisément, cette dichotomie n'est pas opératoire pour un musicien de jazz. En gros, il faut rendre un propos musical, quel qu'en soit le... quelle que soit la manière de faire résonner les choses.
Deleuze théorise la matière verbale dans un texte sur Kafka, en expliquant que si on répète un mot plusieurs fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, ce mot perd toute signification au profit de la seule musique ou anti-musique ou bruit ou vacarme de ces syllabes. Ici, il y aurait un équivalent finalement de la matière verbale qui serait tout simplement la matière sonore, Christian Béthune.
Tout à fait. Tout à fait. Et je suis content que vous fassiez allusion allusion, excusez-moi, à ce texte de Deleuze sur Kafka, parce que précisément, je crois que c'est dans le texte qui s'appelle Pour une littérature mineure, si je ne...
Oui, c'est aux éditions de Minuit, absolument, un texte magnifique.
Et je pense bien, alors là aussi, je vais faire dresser les cheveux sur la tête de beaucoup d'amateurs de jazz, mais je pense que les musiques du chant jazzistique sont radicalement des musiques mineures, précisément au sens où Deleuze entend que Kafka fait de la littérature mineure. Hein, c'est-à-dire que il donne à entendre une minorité. Et si précisément les compositeurs occidentaux ont vite abandonné le jazz, hein, y a, beaucoup l'ont utilisé. Hein, Millau, Stravinsky, etc. Mais ils l'ont vite abandonné. Pourquoi ? Parce que précisément, ils se sont aperçus que l'utilisation du jazz minorisait leur musique, alors que eux, ils pensaient élever le jazz au rang des arts majeurs. Mmh. Et je crois que cette installation radicale dans la minorité est un trait fondamental. Hein, cette installation comme culture mineure, au sens où Deleuze, bien sûr, dit que Kafka est une littérature mineure, où il dit que tout écrivain devrait écrire comme un ouzbek écrit en russe, ou comme, je ne sais plus les propos, mais je me rappelle.
Mais en tout cas, c'est dans ce texte de Deleuze qu'il forge, je crois, hein, je parle sous contrôle des Deleuziens qui nous écoutent, mais le néologisme de déterritorialisation qui nous invite justement à assumer la différence sous le régime de laquelle nous pensons ici.
C'est un petit peu avant, c'est dans l'anti-Oedipe que le terme des territorialisations est forgé, je crois.
Alors, revenons, je me rends à votre avis, vous le savez certainement mieux que moi. En revanche, le bruit ou le mélange du bruit et du son n'est pas l'apanage de Louis Armstrong, ni du chanteur de jazz, mais ça peut être également le cas chez Brassens. On va entendre ici Brassens, d'ailleurs, rapidement, une petite minute, la fin d'une chanson que tout le monde connaît, où on ne sait pas si Brassens se sert de sa bouche ou d'une trompette. Écoutez.
Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Christian Béthune, est-ce que dans cet extrait-là, selon vous, Brassens imite la trompette ou devient trompette ?
Les deux.
C'est pas pareil.
Ben, justement, là encore, on pense que l'imitation est toujours copie d'un modèle. Et je pense que Benjamin a une très bonne remarque. Il dit que, finalement, la matière première de tout imitateur, c'est le corps même de celui qui imite. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit encore que la dichotomie du modèle et de la copie tombe. Et donc, Brassens est trompette et imite la trompette de manière tout à fait simultanée, précisément parce que la matière première, c'est le corps de l'imitateur de trompette qu'est Brassens dans cet extrait.
Quoi de plus apprécié des poètes que le triant chanteur du rossignol, lancé d'un bosquet solitaire par une calme soirée d'été sous un doux clair de lune ? Mais on connaît des exemples de ce que, lorsqu'on a pu trouver un tel chanteur, quelque hôte malicieux a su tromper pour leur plus grande satisfaction les invités venus chez lui jouir de l'air de la campagne, en dissimulant dans un buisson un jeune espiègle qui sache imiter avec une apparence de parfait naturel, ses trilles en sifflant dans un jonc ou un roseau. Mais dès qu'on est persuadé de la supercherie, personne ne supportera longtemps d'écouter ce chant auparavant si attrayant. Et il en va de même avec tout autre oiseau chanteur. Pour que nous puissions prendre un intérêt immédiat à ce qui est beau en tant que tel, il faut que cette beauté soit naturelle ou qu'elle passe pour l'être à nos yeux, a fortiori lorsque nous nous autorisons à supposer que d'autres doivent y prendre intérêt. Christian Béthune, que vous inspire et le texte que je viens de lire, que vous avez reconnu, qui est le paragraphe 42 de la critique de la faculté de juger, l'un des très rares paragraphes fleuris d'ailleurs de ce texte pourtant magnifique qu'est la critique de la faculté de juger, où Kant, au nom de la défense du beau naturel, se moque de ceux qui voudraient reproduire le naturel à coup de truc ou à coup d'artifice, et l'interprétation, en un sens artificiel ou hyper naturel peut-être, qu'en donne Carole Beffa.
Alors, pour en revenir à ce texte, d'ailleurs, ça pose un grand problème parce que certains m'ont reproché justement d'avoir, dans ma façon d'égratigner un peu Kant, je dois dire quand même, d'avoir confondu l'empirique et le transcendantal. Or, précisément, et là, je n'avais pas relu Deleuze avec attention au moment de ces critiques, mais il y a une page dans Mille Plateaux qui dit « Mais l'invention du transcendantal, c'est quelque chose de génial chez Kant. » Malheureusement, la plupart du temps, Kant, sans s'en apercevoir lui-même, substitue l'empirique au transcendantal. Et bien, dans ce passage sur le rossignol, justement, là, Kant se laisse piéger par l'empirique et, d'une certaine manière, devient incapable de discerner l'universelle humanité qui se manifeste dans cette modeste imitation du rossignol siffleur qui est travaille sur la matière première qu'est le corps de l'homme qui imite le rossignol sifflant.
La traduction politique, juste je précise ça, de la substitution de l'empirique au transcendantal, la traduction politique de ce problème-là que pointe Deleuze, c'est le reproche qui est fait à l'Occident d'être universaliste par ethnocentrisme.
Oui, moi je...
L'Occident se prenant pour un sujet transcendantal, alors qu'en réalité, il est empirique, en l'occurrence, voilà. et qu'il impose des valeurs qui sont les siennes, tout en prétendant qu'elles sont celles de tout le monde.
Voilà, c'est un des premiers éléments. Et surtout, il s'agit toujours, dans l'universalisme occidental, d'un universalisme qui exclut. C'est-à-dire que quand on met au défi d'être vraiment universel et de considérer chaque élément de l'ensemble comme il doit être, on dit « Ah oui, mais il y a des exceptions. » Même chez Montesquieu, des exceptions qui sont quand même assez surprenantes, qui dit « L'esclavage est universellement condamnable. » Quoique, dans les pays du Sud, où le climat amollit le corps et l'esprit, détourne l'homme du travail, il est bon de contraindre les hommes à travailler et finalement on les libère en les rendant esclaves. Et donc, on prend généralement toujours le texte, le fameux texte sur l'esclavage des nègres, mais c'est toujours un universalisme qui est prêt à faire de grandes exceptions. Alors, il y a quand même quelque chose à noter qui est fondamental, c'est que c'est simultanément que la grande théorie des droits de l'homme, de l'universalité des droits de l'homme se met en place et que le commerce triangulaire atteint son paroxysme et constitue un autre universalisme là, hein, l'universalisme de la... De l'économie globalisée, parce que la première forme d'économie globalisée, c'est ce fameux commerce triangulaire qui balaye à peu près l'ensemble du monde connu, hein, dans un système d'échange infamant, disons-le. Et donc, c'est quand même assez étonnant que ce soit ce 18e siècle qu'on nous, dont on nous rebat les oreilles comme ayant mis en place les valeurs universelles, c'est aussi ce 18e siècle qui a systématisé la pratique de l'esclavage.
Alors là, effectivement, vous faites référence à Voltaire qui avait des actions, hein, dans le commerce triangulaire. Le texte de Montesquieu auquel vous faites référence, c'est la théorie des climats. Dans l'esprit des lois, ultimement, il faut quand même rappeler que dans l'esprit des lois, ultimement, malgré effectivement quelques allers-retours, Montesquieu finit par condamner sans embâge l'esclavage au nom du principe d'utilité lui-même d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de morale chez Montesquieu, mais il y a quand même un principe d'utilité qui culmine dans la condamnation de l'esclavage, comme des colonies d'ailleurs. Hein, dans les lettres persanes, Montesquieu explique que les colonies n'ont rien à faire, ne sont pas utiles aux colonisateurs et encore moins, à plus forte raison, aux colonisés. Mais laissons cela, revenons au texte de Kant lui-même. Le texte de Kant lui-même critique l'imitation artificielle, la reproduction artificielle de la nature en faisant valoir que bah, si on découvre que le rossignol c'est un gamin qu'on a planqué ou une chenille qu'on a cachée derrière un buisson, on n'est pas séduit de la même manière. De la même manière, si on voit la pleine lune au bout de la rue, on trouvera ça magnifique jusqu'au moment où on s'apercevra que c'est un réverbère. Et pourtant, c'est la même chose qu'on regarde. En critiquant l'imitation comme il le fait ici, Kant fait quand même valoir une certaine forme de supériorité de la beauté naturelle ou d'une naturalité de la beauté sur la beauté construite par l'homme, élaborée par l'homme, planifiée par l'homme. Et est-ce qu'à cet égard, Kant ne permet pas de penser à la fois le phénomène de l'humour et aussi le phénomène de l'improvisation, justement, comme ce qui viendrait comme une façon qu'aurait le génie de trouver sa place. Le génie étant chez Kant cette disposition innée de l'esprit par le truchement de laquelle c'est la nature qui donne ses règles à l'art, Christian Béthune. Est-ce qu'on ne peut pas faire jouer Kant en faveur de l'improvisation ?
Votre interprétation se tient dans la mesure où on considère que l'improvisation n'est pas en elle-même une imitation. Mais là, moi, je suis convaincu, j'ai l'intime conviction que improviser, c'est d'abord imiter, et que on imite, une bonne improvisation, c'est un usage pertinent de stéréotypes, de schèmes que l'on intègre à son discours. Finalement, l'imitation est un jeu de lieu commun, mais ça va très loin, puisque alors là, dans les années 1920, un Américain qui s'appelle Milman Parry a fait scandale. Il a soutenu une thèse en Sorbonne, en français. C'était à l'époque où les Américains soutenaient leur thèse en français, hein, époque qu'on peut regretter. Mmh. Et donc, il a soutenu une thèse sur l'épithète homérique, où il montre que l'épopée homérique, et essentiellement l'Iliade, est constituée comme un jeu de mécanos dans lesquels Homère, ou Laède, utilise systématiquement des stéréotypes et que c'est en juxtaposant des stéréotypes et des formules toutes faites que l'Iliade est constituée. Et pourquoi
Oui, mais pardonnez-moi, Christian Béthune, mais l'Iliade, c'est une œuvre. Ça a donné lieu à une œuvre. Que c'est été d'abord le téléphone arabe d'Aed en Aed et qu'on se soit passé cette parole de façon oraculaire, c'est certain. Mais il y a bien un moment où l'Iliade a été écrite et où désormais le texte résiste à ces imitations qui sont autant de réinterprétations ou de réinventions du texte.
Eh bien, là encore, l'Iliade devient une œuvre à partir du moment où le politique décrète que ça en sera une, puisque c'est Pisistrate qui a... Et dicter un édit en disant qu'on n'avait plus le droit de changer l'ordre des chapitres de l'Iliade, enfin des chants de l'Iliade, qu'on n'avait plus le droit de changer les mots, qu'il fallait consigner l'Iliade par écrit, l'Iliade et l'Odyssée par écrit, mais c'est un décret politique. Jusqu'à ce décret, on improvisait librement sur l'Iliade, on rajoutait des épisodes, on en enlevait, on en raccourcissait, on en rallongeait, on brodait. Et l'Iliade pouvait faire 30 000 vers, mais pouvait en faire que 10 000 ou 60 000. Et donc tout ça, ça a été décrété par le politique, par Pisistrate, qui a dit, voilà, l'Iliade, ça sera ça, maintenant.
Je me demande si, implicitement, il n'y a pas dans votre propos un éloge de la déconstruction, au sens que Derrida pouvait donner à cela, justement. Finalement, un éloge de la déconstruction comme une façon de revivifier les textes. On a beaucoup parlé de déconstruction, il n'y a pas longtemps, dans Les Chemins, à propos, justement, de Derrida et de cette pratique de la déconstruction, qui n'était pas une destruction, mais qui était une destruction-construction. Et qu'au fond, une invitation permanente faite par Derrida à reconstruire les textes en s'attardant ou en les découpant de façon inattendue, surprenante, presque en improvisant. D'ailleurs, Derrida lui-même était très sensible au phénomène de l'improvisation, Christian Béthune.
Alors là, je suis presque enthousiaste que vous me disiez ça, puisque c'est mon champ de recherche actuel. J'ai été naturellement mené à travailler dans ce sens-là. Mmh. Et effectivement, alors c'est intéressant, parce qu'à ce moment-là, ça remet en question la dichotomie écriture-improvisation. L'improvisation est une écriture. Ce n'est pas une écriture alphabétique, ce n'est pas une écriture notationnelle, mais c'est foncièrement une écriture, comme dit Derrida, les signes sur les calebasses que Lévi-Strauss considère comme n'étant pas de l'écriture sont quand même de l'écriture, etc. Et effectivement, et là, il y a comme dit, il y a un très beau texte de la grammatologie où il dit qu'il y a toujours une mise à nu du texte par l'écriture, l'écriture qui se constitue contre le livre, et qu'on est en ce moment de regagner le textuel contre le livresque.
Et ça, c'est tout le sens d'ailleurs du texte magnifique de Derrida sur la pharmacie de Platon,
tout à fait.
Dans lequel, effectivement, dans le Phèdre de Platon, Phèdre arrive avec un discours de Lysias, il est tout content, il l'a sous le manteau, il le sort, et Socrate finit par lui expliquer que c'est un texte qui répond toujours la même chose aux questions qu'on lui pose, et qu'au fond, l'enfant qu'il porte sous le manteau est un enfant mort-né. Alors qu'en réalité, la parole vivante de la conversation, c'est-à-dire de l'improvisation, vous le disiez tout à l'heure, Christian Béthune, est ce qu'il convient de faire valoir. Et au fond, le rapport que Derrida entretient avec le texte est un rapport justement d'improvisateur à cet égard, qui vivifie la parole figée d'un texte.
Oui, mais je serais beaucoup plus réservé sur Platon, parce que d'une certaine manière, quand on considère la façon dont Platon a pris en charge la survie éditoriale de ses œuvres, on peut considérer que c'est justement le premier auteur et sans doute le précurseur de ce qu'on appelle un livre. Mmh. Et que d'une certaine manière...
C'est pas un crime non plus, hein, Christian.
Non, non, mais je dis pas que c'est un crime. Je parle loin de là. La culture livresque, disons que ce qui est gênant, c'est son impérialisme. C'est pas du tout, voilà. C'est que au nom de cette culture, toutes les autres soient mésestimées. C'est pas du tout, au contraire. D'ailleurs, moi, je suis entièrement dans cette culture-là et je sais rien faire sans mes notes, sans mes livres, sans mes. Donc, c'est pas mon propos de minimiser cette séquence.
On va finir avec Derrida, justement. Un texte improvisé, mais désormais écrit de Derrida. Que vais-je pouvoir inventer encore, se demande Derrida. Imaginez. Un orateur ose se présenter ainsi devant ses hôtes. Il semble alors ne pas savoir ce qu'il va dire. Il déclare avec insolence qu'il se prépare à improviser. Il va devoir inventer sur place. Et il se demande encore, que vais-je bien devoir inventer? Mais simultanément, il semble sous-entendre, non sans outrecuidance, que le discours d'improvisation restera imprévisible, c'est-à-dire comme d'habitude encore nouveau, original, singulier, en un mot, inventif. Et de fait, un tel orateur romprait assez avec les règles, le consensus, la politesse, la rhétorique, de la modestie, bref, avec toutes les conventions de la socialité, pour avoir au moins inventé quelque chose dès la première phrase de son introduction. Ornette Coleman, un peu de free jazz pour terminer cette émission, et pour cause, on l'avait dit dans la semaine sur Derrida d'ailleurs, Ornette Coleman, que Derrida connaissait bien et qui avait valu à Derrida d'ailleurs une anecdote un peu désagréable pour lui. Peut-être on aura l'occasion de revenir dessus, Derrida en tout cas, à penser entre autres le phénomène de l'improvisation. Grand merci Christian Béthune d'être venu, entre guillemets, nous en parler. Le jazz et l'Occident, c'est de vous et c'est chez Klingsic. 10h50 sur France Culture, on improvise un passage de relais avec le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Comment reconstituer une époque où la Terre était si nouvelle et donc si ancienne pour nous, que nous ne la connaissons que par les marques qu'elle a laissées à la surface de la planète? Comment l'historien et le paléontologue parviennent-ils à restituer à partir de documents pour le moins incomplets le tissu vivant du passé? Des mammouths aux fossiles, aujourd'hui, petit voyage en préhistoire. Bonjour Claudine Cohen.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et spécialiste de l'histoire de la paléontologie et des représentations de la préhistoire et vous avez publié au Seuil un livre intitulé « La méthode de Zadig, la trace, le fossile, la preuve » dans lequel vous vous interrogez sur la méthode de l'historien et du paléontologue qui s'intéresse donc à la préhistoire, c'est-à-dire à cette période où nous avons pour tout document des traces en guise d'archives des fossiles et comme substitut de témoignage des signes infimes, des fragments que nous devons assembler pour tenter de faire sens et reconstituer ce monde révolu. Mais comment, Claudine Cohen, comment ne pas tomber dans la fiction, dans le fantasme, lorsqu'on essaie de reconstituer une période dont on n'a quasiment aucun élément et qui n'a jamais été vu de mémoire d'homme? Est-ce que le préhistorien et le paléontologue ne se retrouvent pas dans la position du petit enfant qui s'émerveille devant des dinosaures comme des monstres inventés de toutes pièces par l'imagination?
Bien sûr, les mondes de la préhistoire nous apparaissent aujourd'hui comme des images, et des images extraordinaires. Parfois des images mobiles d'ailleurs, parce qu'on voit au cinéma des dinosaures tout griffes dehors, qui sautent, qui courent. On voit des hommes en train de courir dans la savane, de se poursuivre, etc. Et on a l'impression qu'ils sont là, qu'ils sont avec nous, qu'ils ont une réalité. Et il y a quelque chose de presque magique dans cette réalité d'un passé qui nous apparaît ainsi, concret, vivant. Alors la question est de savoir, est-ce que ce sont des procédures magiques? Est-ce que c'est par l'invention, par l'imagination seulement que se réalisent ces images? Alors depuis toujours, depuis que la paléontologie existe, depuis Cuvier, on a essayé de nous faire croire qu'il y avait effectivement une procédure pratiquement magique, il suffisait de claquer dans ses doigts.
Rappelle juste que Cuvier, hein, c'est l'auteur des recherches sur les ossements fossiles quadrupèdes qui a été écrit en 1812.
Et hein. C'est le fondateur de la paléontologie des vertébrés. Voilà. C'est un personnage haut en couleur qui était en même temps un homme politique, quelqu'un qui a fait sa propre célébrité, précisément en disant « moi, je connais la façon de reconstituer les mondes du passé comme la trompette du jugement dernier fait ressurgir tous les êtres éteints. Hein. » Et il s'est fait une publicité extraordinaire en disant ça. Et effectivement, il a fait surgir, aux yeux de ses contemporains, qui n'avaient jamais vu cela, des mammouths, des êtres complètement inédits, dont on n'avait jamais entendu parler. Et c'est lui qui a prouvé qu'il y avait des êtres éteints. Hein. Et qui, dans ce texte de 1812, qui est un énorme ensemble de 4 volumes, qui a précisément publié toutes ses recherches pour mettre aux yeux de ses contemporains ces nouveaux mondes et ces nouveaux êtres. Alors lui, il disait « Moi, j'ai une méthode. Ma méthode est plus certaine que celle de Zadig. » Alors, d'où mon titre. Zadig, c'est ce personnage de Voltaire qui sait reconstituer des animaux à travers leurs traces. Hein, on cherche la chienne de la reine, tout le monde la cherche, on ne sait pas où elle est. Et Zadig dit, moi je sais où elle est passée par là. On lui dit, vous l'avez vue? Il dit, non, je ne l'ai pas vue.
Voilà, et je sais qu'elle est boiteuse et je sais qu'elle vient d'accoucher, parce qu'il a reconstitué les traces sur le sol de la patte qui boitait.
Et alors on lui dit, mais vous êtes un magicien, vous êtes un sorcier? Il dit, non, pas du tout, je ne suis pas un sorcier. Là, on retrouve la magie dont je parlais. Et on lui fait un procès, il est obligé de se justifier. Il dit, j'ai lu des traces. Et Cuvier, lorsqu'il écrit « Les ossements fossiles de quadrupèdes », dans la préface de ce livre, se souvient de Zadig. Il dit « Ma méthode est plus certaine que celle de Zadig ». Mais ma méthode, c'est-à-dire que lui, met au point une méthode qui est fondée conceptuellement sur l'idée que l'organisme est un tout, une structure fermée, il est déjà structuraliste, Cuvier pratiquement, qui a un sens fonctionnel. C'est-à-dire que chaque partie de cet organisme répond aux autres parties pour orienter l'organisme vers une fonction déterminée.
Comme un mécanisme parfait.
un mécanisme, une machine. Par exemple, le carnivore, il a la dent qui permet de déchirer la chair, mais il a aussi la légèreté qui permet de courir après la proie. Il a aussi les muscles qui lui permettent de courir. Il a les attaches musculaires qu'on peut reconnaître sur son squelette, etc. Donc, il y a une tentative par Cuvier de mettre au point une science exacte. Il parle de Newton. Hein. Il dit « je vais fonder une science sur des méthodes rationnelles ». Alors, quelques décennies plus tard, on invente la théorie de l'évolution. Cuvier n'était pas évolutionniste, il était fixiste. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il considérait les organismes comme des structures closes, hein, des structures qui ne fixent, qui ne bougent pas, et simplement qui sont détruites pour que d'autres faunes réapparaissent. Donc il est fixiste, Cuvier. Alors quelques décennies plus tard, Thomas Henry Huxley, le champion de Darwin, on disait le bulldog de Darwin, dit « c'est pas du tout ça ». Hein, si on est dans un cadre évolutionniste, ça ne marche pas de cette façon. On peut bien parler de la méthode de Zadig, mais la méthode de Zadig est celle qui consiste à reconstituer des filiations, des phylogénies, hein, une évolution. Parce que dans les organismes, tout n'est pas fonctionnel. Vous avez aussi des parties qui restent, qui sont comme des vestiges, justement, d'une histoire ancienne. Hein. Par exemple, dans la patte du cheval, vous avez un doigt, mais vous avez deux petits doigts vestigiaux qui ne servent à rien. Donc, la fonction n'est pas totale dans l'organisme. Il y a des choses qui sont des souvenirs d'un organisme ancien qui est l'ancêtre. Et donc, il s'agit de retrouver l'ancêtre. Donc, vous voyez, le débat entre Cuvier et Huxley, déjà, autour de ces méthodes. Mais alors, depuis Cuvier et Huxley, on a mis au point d'autres méthodes qui consistent à chaque fois réinterpréter ces vestiges que sont les ossements fossiles et parfois d'autres vestiges. Aujourd'hui, par exemple, on interroge les traces moléculaires qui permettent d'établir des phylogénies beaucoup plus précises que ne le font les fossiles, par exemple. Et cette notion de trace, elle est vraiment au centre de mon travail. Hein, trace, empreinte, hein, mais aussi vestige, puisque le vestige, c'est étymologiquement la trace de pas, mais c'est aussi le reste que constitue le fossile.
Comme l'indique le sous-titre de votre livre, Claudine Cohen, donc je le rappelle, le titre, c'est « La méthode de Zadig, la trace, le fossile et la preuve ». On trouve ça aux éditions des Seuils et c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup d'être venu en parler aujourd'hui.
J'aimerais dire que le reste est silence, mais non, on va finir avec un peu de débauche.
Et oui, restons dans l'histoire, hein, puisque d'histoire, il est beaucoup question aujourd'hui, avec bien loin des dinosaures et des fossiles, cette petite histoire des lieux de débauche qu'on trouve chez Payot. L'historienne Edith Huyg, qui a déjà publié un livre sur les coureurs d'épices et un autre sur la route de la soie, se penche cette fois sur les différentes façons grivoises et secrètes de se donner du plaisir à travers les époques. Du temps de la guerre du feu jusqu'au désir d'Orient, en passant par les bordels et banquets athéniens, l'auteur montre qu'approuver ou réprouver les maisons de plaisir est une histoire aussi ancienne que ces lieux. Le but n'est pas de juger ces sanctuaires d'Eros, mais de rappeler que les lieux et les usages du plaisir sont aussi riches de constantes que d'inventions. On y découvre comment les cultures apparemment les plus austères ont autant d'anecdotes à raconter, d'architecture à observer, de rituels à surprendre et de secrets à divulguer, et pas toujours d'alcôve. Ça s'appelle Petite histoire des lieux de débauche, et on trouve ça chez Payot.
Donc après la vie sexuelle des saints, l'histoire des lieux de débauche, le jazz, la préhistoire et la débauche. Donc c'était l'improvisation du jour. Une émission qui, sans être une œuvre, sans y prétendre en tout cas, est tout de même disponible sur Internet, telle que vous l'avez entendu, à la page des Nouveaux Chemins, où vous pouvez la télécharger ou bien encore l'écouter en ligne. Quelques regrets d'ailleurs au terme de cette œuvre. On aurait dû parler de Sartre, d'un extrait de La Nausée où il parle, plusieurs extraits, d'une chanson de Sophie Tucker, de texte de Bergson également sur la grâce, ou du texte de Christian Gailly, que je n'ai pas eu l'occasion de diffuser aujourd'hui. Tant pis, c'est dire à quel point nous ne faisons ici qu'effleurer les sujets dont nous parlons. On se retrouve demain, en direct, comme tous les jours de la semaine, avec Carole Beffa, pour y parler cette fois-ci de l'improvisation en histoire, l'histoire en majesté, lue sous le filtre de l'événement. L'improvisation et l'occasion sont-elles la même affaire ? C'est la question qu'on posera demain à Nicolas Offenstadt.